Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 sur RMC, bon réveil à tous.
L'invité du jour.
L'invité du jour, ils sont deux. D'abord dans ce studio, Alain Marchal, cher Alain, évidemment tout le monde vous connaît ici, notre Alain à nous tous. Bah, vous êtes aussi le Niçois, Alain Marchal. Et on va revenir avec vous sur votre témoignage de cette soirée, la fameuse soirée du 14 juillet 2016. Le procès s'ouvre aujourd'hui. Dans un instant, c'est Anan Chari qui nous rejoindra également. Elle est coincée, on va tous dire, dans les embouteillages, mais elle arrive, elle est tout près du studio d'RMC. Et je voulais entendre son témoignage parce que sa mère a été la première victime du terroriste ce soir-là. Alain, vous étiez à Nice pour regarder le feu d'artifice. Vous étiez en mer et c'est en arrivant sur le port que votre fille vous a alerté, Alain.
Oui, en fait, on était en bateau, on regardait le feu d'artifice sans se rendre compte de ce qui était en train de se jouer puisque on était un peu au large. Et au moment où on retournait au port, c'est ma fille qui me dit « Papa, c'est pas possible, il se passe des choses. Tous mes copains me disent « Emma, est-ce que t'es sur la prom ? Il y a des morts, c'est terrible, etc. » Je dis « Écoute, moi j'ai rien. » Et à peine le temps de finir ma phrase, qu'à ce moment-là, j'ai vu arriver les alertes et puis BFM TV, RMC, qui ont commencé à m'appeler en disant « Attentat sur la prom, attentat sur la prom. »
Alain, on va se tutoyer, c'est quand même beaucoup plus naturel et c'est dans la vraie vie. Alain, juste après, t'as effectivement RMC et BFM TV qui t'appellent, qui te disent si t'es sur place, file sur la prom. Et là, plus tu te diriges vers les lieux et plus tu vois tous ces gens en état de choc.
Oui, parce que quand on est sur le port pour aller sur la promenade des Anglais, il faut marcher, allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, tout du moins, pour arriver là sur ce qui devait être les lieux du drame. Et plus j'avançais, plus je croisais des gens en état de choc. Et j'ai cette image de ce groupe de jeunes, et un garçon en particulier qui avait une couverture de survie sur le dos, qui tremblait, qui était en larmes, et je demandais, je dis, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que c'est? Dites-moi, racontez-moi. Et qui disait, monsieur, n'y allez pas, c'est l'horreur. Il y a des morts partout. Il y avait ses copains qui le tenaient. Et j'avançais, je voyais des gens qui étaient encore... Enfin, je me souviens d'un autre groupe avec des gens qui criaient, c'est pas possible. Et moi, je passais ce qu'on appelle le monument aux morts, Robat Capet, où je descendais par les Ponchettes. Et là, je commençais à voir les lumières. Et il y avait encore des gens qui couraient en criant, alors que tout s'était passé depuis une bonne demi-heure déjà, quoi, en fait.
Et Alain, ce que tu dis, c'est que, parce qu'on se fait souvent raconter, tu nous l'as dit, t'entends d'abord ces cris, mais par contre, plus tu te rapproches du lieu, plus c'est silencieux.
C'est un silence terrible. Le vrai, j'ai appris ce que c'était que le silence de mort, en fait. C'est-à-dire, tu arrives sur la promenade des Anglais, qui est le 14 juillet, normalement, est noire de monde, bruyante, festive, et là, c'est le vrai silence de mort. C'est-à-dire que j'avais en ligne de mire les gyrophares des voitures de police, de pompiers, des ambulances, et on n'entend rien. Rien. On est sur la promenade des Anglais. Imagine, c'est comme si
les gens sont saisis.
C'est comme si on avait fermé une porte, la porte d'une ville. Et la ville est plongée dans le silence. Et j'avance. Et au loin, je commence à distinguer vraiment les voitures de police, des hommes en armes partout, des gens assis, allongés, qui boivent. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et j'essaie d'avancer vers le méridien. Là où je commence à apercevoir le camion, et presque je n'entends qu'une chose, c'est le bruit de mes pas et des sanglots, quoi. Et ce silence qui est là, qui est terrible dans la chaleur. Parce qu'il y avait cette espèce de petit vent un peu chaud dans cette chaleur. Et je me dis, mais qu'est-ce qui... Moi-même, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois bien qu'il y a eu un attentat, on me parle de dizaines de morts. Et j'avance sur une scène où je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais découvrir, quoi, en fait.
Une scène où tout le monde était saisi dans le chagrin, dans l'angoisse. Et là, tu es à la fois journaliste et niçois, quoi.
Il y a les deux. C'est-à-dire que tu te sens étreint par le drame que tu vis en tant que niçois. Et puis, il faut avoir la lucidité de se dire, bon, alors, il y a des barrières qui sont là. Où est-ce que je dois aller? J'attendais ma JRI, Emma Arnaud,
la caméraman, hein.
Ouais, qui pourra raconter. Et puis je croisais des gens avec qui j'essayais de discuter. En même temps, il y avait de la tension. Il y avait des policiers parce qu'on se disait, est-ce qu'il y a des complices qui sont là? Et puis j'essayais de prendre les rues par l'arrière pour essayer d'aller au plus près du drame. J'apercevais le camion. On me disait, il y a des corps sur lesquels on a jeté des nappes de restaurant pour les couvrir. Je me souviens aussi de ce monsieur qui me disait, il a écrasé tout le monde, il a écrasé comme des figues. comme des figues. C'est-à-dire, il a roulé sur les gens comme des figues, des fruits écrasés. Je dis, mais c'est, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Voilà. Et j'essayais petit à petit de recueillir des témoignages de gens qui étaient là, quoi.
Alain, il y a ensuite la machine étatique et politique qui s'est mise en place. C'est que t'as vu arriver, en fait.
Oui, parce que vu l'ampleur du drame qui se jouait, bien sûr le maire, les adjoints, tout le monde se déplaçait sur place. Et puis on commence à nous dire attention. Dans la nuit, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, va arriver sur place. Ça va se passer à tel endroit. Et puis il y avait ordre contre ordre parce que il y avait des mesures de sécurité à prendre. Et puis pour ceux qui connaissent Nice, quand on est sur la promenade des Anglais, on nous dit la conférence de presse improvisée nocturne va avoir lieu place Masséna. Et donc il faut faire 300 mètres si tu veux pour aller place Masséna à peine. Et au moment où on nous dit l'hélico, les avions, il est 2h ou 3h du matin peut-être, quelque chose comme ça. Et il y avait des policiers partout. Et au moment où on arrive, je me souviens des policiers qui nous ont mis en joue avec Emma, mais qui nous ont mis en joue à distance, si tu veux.
Qui voyant votre silhouette.
Oui, oui.
Tout ça, c'est la nuit. Hein.
C'est la nuit, parce qu'on courait pour aller sur le lieu de la conférence de presse. On est non, journaliste, etc. Et puis après, je discutais avec des policiers qui me disaient les rumeurs partent dans tous les sens. On nous dit qu'il y a des complices, qu'il y a encore des gens qui sont en fuite. Il faut qu'on sécurise le périmètre. Il faut pas qu'il y ait d'affolement. Et en fait, ce que je retiens aussi, donc, il y a eu la conférence de presse entourée de policiers. Je me souviens avec Monsieur le Maire, Christian Estrosi, avec Bernard Cazeneuve, où ils nous mettent au courant précisément ce qui s'est passé, où sont transférés les blessés, quelles sont les mesures de sécurité qui ont été prises. Quoi. Voilà.
Et justement, Alain Anan Chari finit par nous rejoindre. Venez, asseyez-vous là. Venez vous asseoir. Bonjour. Vous étiez coincé sur le chemin, mais vous êtes là et vous vouliez témoigner ce matin parce que, je le disais, votre mère a été elle-même la première victime du camion.
C'est ça. C'est malheureusement, parmi les 86 décédés ce jour-là, malheureusement, Fatima Charihi, mère de cet enfant, d'origine marocaine et musulmane.
Ça compte beaucoup pour vous, et je vais le préciser pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous portez un voile, et je pense que ça fait partie, j'ai l'impression, quand j'ai préparé cette interview, que votre témoignage, c'est aussi de dire, nous, les musulmans, nous sommes aussi victimes de cet homme-là.
C'est ça. C'est ni plus ni moins que le fanatisme. Pour nous, voilà, musulmans, on se dissocie complètement de ces personnes-là. On estime qu'ils n'ont rien à faire avec, qui n'ont rien à voir avec notre religion surtout. Et malheureusement, ça a été, les conséquences d'un fanatisme difficile, très 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 meurtrier.
Pour vous avez l'impression du coup d'une double souffrance.
C'est ça. C'est pour ça que j'avais écrit cet ouvrage, Ma mère patrie, c'est que j'ai voulu exprimer, on va dire, l'amalgame dont on a été victime, déjà dans un premier temps directement, c'est-à-dire que dès les premiers instants de cet attentat, ma mère était encore au sol et on a subi des attaques islamophobes. Il y a des personnes qui ont jugé, qui nous ont dit c'est bien fait pour vous, cette fois-ci c'est votre tour. Ensuite,
quand vous venez de perdre votre mère.
Voilà, elle était encore au sol, c'est ma famille qui a subi ça. Ce soir-là, moi j'étais encore en région parisienne, hein. Je ne suis pas arrivée tout de suite à Nice, je suis arrivée que le lendemain matin malheureusement. Et ensuite, les jours qui ont suivi, ça a continué. On a subi deux agressions en une journée, dont une personne qui nous a dit clairement, tant mieux, ça en fait une en moins. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui, c'est cette impunité que se permettent certaines personnes lorsqu'ils font l'amalgame.
Mais du coup, cette distinction entre islam et islamisme, vous militez pour qu'elle soit claire, nette, dite, prononcée haut et fort?
Évidemment. Déjà, dans un premier temps, les musulmans, il y a des choses que je n'ai pas compris, comme lorsqu'on a demandé aux musulmans de se désolidariser. Pour moi, je n'ai pas saisi, en fait.
Parce que pour vous, ça n'avait rien à voir.
C'est ça, parce que dans un premier temps, il faut être solidaire.
En même temps, il le fait au nom de l'islam.
Oui, il le fait au nom de l'islam, mais C'est du fanatisme et enfin ça existe depuis la nuit des temps. Voltaire a dit à l'époque le fanatisme est un monstre dont qui se dit fils de la religion. Ça c'est pas une nouveauté, on va dire, c'est quelque chose qui se répète encore une fois dans l'histoire et c'est ça malheureusement qui où il faut mettre l'accent, c'est que on n'a rien à faire avec ces gens-là et avec le recul aujourd'hui, 6 ans après, je me dis clairement qu'est-ce qui s'est passé pour que ces personnes agissent en toute impunité. Je vais être honnête avec vous, je pense que l'acharnement politico-médiatique n'a pas aidé les musulmans.
Est-ce que ce procès, pour vous, peut changer les choses ?
Je l'espère. Je l'espère comme la plupart des parties civiles, on attend des réponses.
J'aurais aimé vous donner la parole plus longtemps, vous avez malheureusement été coincé dans un embouteillage, mais merci d'être venu vous exprimer ce matin au micro d'RMC.